RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Donc vous êtes à l'émission Les Neveux de René, Chemin de pensée sur RCF. Vous êtes avec Nazim Fattès, Anne Bonneau, Nicolas Lemoine et moi-même, donc Sylvain Contasso-Vivier. Et donc nous allons continuer notre série d'émissions sur le Criton de Platon. Alors Nicolas, qui est notre maître master des résumés, va nous faire le résumé de l'épisode précédent.
Oui, que j'ai écouté attentivement à la radio à défaut d'avoir participé à la discussion. Alors nous avons entamé la semaine dernière le dialogue de Platon intitulé Criton. Ce dialogue a lieu juste après la condamnation à mort de Socrate, comme cela est rapporté dans l'Apologie de Socrate, que nous avions présenté en septembre dernier. Caton est un riche ami de Socrate qui propose de soudoyer les gardiens pour permettre à Socrate de s'évader et ainsi d'échapper à la mort. Et à cette condamnation injuste dont il est victime. Il trouve Socrate serein, prêt à dialoguer comme à l'accoutumée pour examiner s'il est juste ou non de fuir. Criton livre ses arguments, puisque grâce à lui, Criton, Socrate a la possibilité matérielle de fuir, il doit le faire. Premièrement, pour soulager ses amis qui perdraient un ami très cher, pour veiller sur sa famille et notamment ses jeunes enfants, qui deviendraient sinon orphelins, et enfin pour éviter que la honte ne s'abatte sur ses amis, parce que la foule ne croira pas que Socrate a refusé de fuir, mais croira que ses amis n'ont pas payé ce qu'ils pouvaient pour tenter de le faire évader. Alors Socrate commence par affirmer, comme il l'a toujours fait, sans que sa condamnation change quoi que ce soit, que l'on ne doit pas tenir compte du grand nombre, même s'il a été victime du grand nombre lors de son procès. Cela pose pour nous la question de la démocratie, puisque la démocratie, c'est la loi du grand nombre, qui impose sa loi. Cette question se pose de façon encore plus aiguë aujourd'hui, car nos démocraties essayent de faire participer le plus grand nombre, ce qui n'était pas le cas en Grèce, où seuls les hommes libres, membres de la cité, étaient citoyens, cité dont la taille n'avait rien à voir avec nos grands états modernes. Alors, cette question donc se pose de différentes façons. On ne peut évidemment pas comprendre, chaque citoyen ne peut pas comprendre tous les enjeux, avoir tous les éléments en main pour participer à la décision. Enfin, se pose le problème des purs produits marketing qui sont arrivés récemment au pouvoir. On a pensé par exemple au nouveau président américain. Alors la question qui se pose aussi, c'est quelle éducation pour rendre crédible et viable un système démocratique? Pour Platon, la politique est liée à la morale et aux soins de l'âme. Si on n'est pas en rapport avec l'idée platonicienne bien sûr, tout n'est que rapport de force. Et ces rapports de force agissent au hasard. Or, l'idée de justice, d'âme, de bien, sont peu ou pas évoquées dans le débat politique contemporain. Socrate meurt, et ça ne porte pas à l'espoir. Est-ce un constat d'échec? C'est la question qui a été posée. Mais on a remarqué aussi que Socrate va jusqu'au bout, qu'il ne renonce pas à ce à quoi il croit, et il croit au respect des lois, et jusqu'au bout il va respecter les lois. Et il se pose la question, comment devons-nous agir? Socrate, par l'examen, qui passe par le dialogue, détruit l'opinion, pour arriver à une vérité qui est indépendante des circonstances. Et donc, il ne dépend pas notamment de ce qui peut arriver à Socrate dans le cas présent. Alors, mais la question, Socrate notamment, dit qu'il faut faire appel à des experts dans chaque domaine des choses, dans les différents domaines. Alors, qui est l'expert en politique et en morale? Serait-ce le philosophe? Mais là, Socrate est pris à son propre piège, lui qui répète sans cesse qu'il ne sait rien. Il s'en remet à la loi, mais ne dit pas comment créer des lois justes. Alors un élément de réponse pourrait dire que philosophe, c'est pas quelqu'un qui est diplômé d'une école de philosophie, ce n'est pas un statut, mais c'est, la philosophie c'est quelque chose qui se vit, et qui en cela est accessible à chacun, chacun qui décide dans sa vie quotidienne de prendre soin de son âme. Chacun doit éduquer son âme, et ce n'est pas une activité qui est purement intellectuelle, c'est vraiment une façon de vivre au jour le jour. Et c'est ça le fondement de la politique. Et c'est peut-être ce qui rend possible la démocratie.
Bah écoute, merci Nicolas pour ce résumé complet. Alors en fait, ce qui est intéressant justement dans la discussion, hein, dans le déroulement de la discussion jusqu'à ce moment-là, là où on en était arrivé, c'est effectivement cet accord hein, entre Criton et Socrate sur le fait qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Et c'est pas parce qu'on pense avoir été victime d'une injustice qu'il faut rendre l'injustice en fait. Pas en commettant une soi-même. Et donc, il dit même, mais ça on y reviendra plus tard, hein, qu'il n'y a pas de dialogue possible si on n'est pas d'accord sur ce point-là déjà. Alors, ce qui est intéressant à ce stade hein, dans le texte, c'est que à ce moment du dialogue, Socrate va faire parler les lois, donc ce qu'on appelle la prosopopée des lois, où il personnifie les lois et il se met en questionnement vis-à-vis des lois. En fait, il rentre en dialogue avec les lois directement. Alors, pour justement lancer un petit peu la discussion,
juste le mot prosopopée, c'est une figure de style. Hein.
Oui.
C'est-à-dire, je pense que c'est prosopone, peut-être, le visage. Et peut-être, ou alors aipon, aipemoi, c'est récite-moi, raconte-moi.
D'accord, en grec, oui.
Qui est lié à mutos aussi.
Pour la précision, oui. Et donc, justement, là, on va donc lire le début hein, de ce dialogue, simplement pour justement voir un petit peu les questions qui sont posées, en fait, entre Socrate et les lois. Donc, les lois parlent. « Dis-nous, Socrate, qu'as-tu dessein de faire ? Ce que tu tentes, qu'est-ce autre chose que de vouloir nous détruire, nous, les lois, et tout l'État, autant qu'il est en ton pouvoir ? Crois-tu vraiment qu'un État puisse subsister ? Qu'il ne soit pas renversé lorsque les jugements rendus y sont sans force, lorsque les particuliers peuvent en supprimer les faits et les détruire. » Socrate ajoute, « Que répondrons-nous, Criton, à cette question et à d'autres semblables ?» Donc voilà un petit peu la question qui est posée, en fait.
Alors, un petit mot au propos du mot « État ». État, c'est « police hein. ».
Oui,
c'est police. Hein,
c'est la cité.
C'est la cité. On pourrait traduire aussi par cité. Il faut surtout pas entendre État au sens où
actuel.
Nous l'entendons.
Oui. À l'époque, c'était les cités effectivement qui étaient des cités royaumes, si on peut dire.
Cité-État. Oui.
Cité-État. Donc voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Bah, moi, j'y vois ce que disait Nicolas avec l'histoire du soin de l'âme. Là, ce que dit Socrate. C'est l'autre versant du soin de l'âme, c'est la destruction de l'âme. En fait, le mot grec qu'on va retrouver très souvent dans ce dialogue, c'est diaphtérous, qui donne un diphtérie, diaphtéro, ça signifie je détruis. Et donc, je comprends que ce que Socrate dit à Criton, c'est si je suis ton conseil, qui est évidemment bien intentionné, je détruis mon âme. Et donc, c'est pas de la morale au sens mon petit père, faut pas faire le mal, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il dit vraiment que c'est un mouvement de destruction. C'est le contraire du soin de l'âme.
Mais alors là, tu parles d'une destruction personnelle. Alors que là, dans le texte, c'est les lois. Comment Socrate, en s'enfuyant, comment il arrive à détruire les lois en fait ?
Et ça n'est pas ce cadre personnel.
Eh bien, non. Je ne pense pas qu'il faille séparer le cas personnel du cas communautaire. Parce que, justement, chez Platon, il me semble que c'est toujours ensemble et qu'on ne peut pas faire le départ entre ce qui concerne l'individu seul et la communauté. Autrement dit, chez Platon, il n'est pas question de se sauver seul. Le philosophe n'est pas celui qui va contempler dans sa tour d'ivoire la vérité et dire « Ah ben moi je suis sauvé et puis tant pis pour les autres ». Ça n'existe pas chez Platon.
Mais inversement, on ne peut pas se perdre tout seul non plus. Et si on agit mal, le mal agir a des conséquences au niveau de la cité tout entière.
Exactement.
Anne, tu voudrais ajouter quelque chose ?
Oui, donc on commence déjà ici déjà à sous-peser l'importance des lois, hein, donc auxquelles on reviendra. Je voudrais aussi déjà ajouter, avant qu'on parle de ça, un peu toute l'ironie de la chose, hein, c'est-à-dire que Socrate utilise une méthode dialectique, sa méthode dialectique socratique, pour finalement faire parler les lois, entre parenthèses, un peu contre lui, peut-être plutôt surtout contre Criton. Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'assez ironique là, à cet endroit-là. Mmh. Sinon, moi, j'y vois aussi tout ce qui va venir sur la liberté, parce que respecter les lois, c'est aussi respecter la liberté. Je ne sais pas si on développera ou non après.
Mmh. Alors, ça fait penser aussi au petit fascicule qu'a écrit Kant sur le supposé droit de mentir, où il développe des arguments très similaires. Donc il pose le problème suivant, vous avez quelqu'un qui est persécuté injustement par la police d'un pays qui n'est pas donc une démocratie au sens où nous l'entendons, et quelqu'un vient se réfugier chez vous, vous l'hébergez, vous le cachez, mais la police arrive chez vous, et le chef de l'escouade vous demande si donc cette personne est chez vous. Et donc là vous devez répondre oui, il est chez moi, donc là vous ne mentez pas. Et où vous répondez non, il n'est pas chez moi. Et donc le point de vue de Kant, c'est que on peut pas mentir jamais, parce que on ne peut pas de faire un cas particulier une loi universelle, et que si tout le monde se mettait à mentir, eh bien aucun État, aucune collectivité ne pourrait se maintenir s'il n'y a pas un minimum de confiance entre les individus. Encore une fois, donc l'idée qu'un acte particulier a des conséquences sur l'être général qu'est la cité, le microcosme influence sur le macrocosme.
Et là, on voit qu'on est quand même dans une sorte d'enfermement, parce que si l'État, on sait qu'il a des agissements très négatifs, du coup, le mensonge, on pourrait imaginer qu'il est quand même justifié. Et pourtant, d'après ce que tu nous dis, au final, il ne faut pas mentir quand même, quoi.
Bah, l'idée de Kant, c'est que chacun de tes actes puisse faire l'objet d'un article de la loi universelle.
Et la question aussi qu'on peut se poser, c'est que finalement, si je ne me donne pas cette discipline, ou du moins une discipline, au fond, qu'est-ce que j'en ai à faire des lois ? Tu vois ? Il n'y a d'intérêt pour la vie de la cité qu'à partir du moment où elles ont une emprise sur moi.
Oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, Socrate lui-même parle de ça, hein, du respect des lois, enfin l'importance et pourquoi il faut respecter les lois.
Donc je pense que dans la perspective qui vient d'être évoquée par Nicolas, la perspective développée par Kant, si tout le monde respecte la loi, tout le monde va être attentif aux lois. Et donc il n'y aura pas de mauvaise loi. Enfin, c'est comme ça que j'imagine les choses.
Et puis surtout, personne ne peut exercer une tyrannie telle qu'il puisse lui-même, de sa propre initiative, énoncer une loi qui lui serait particulière. Parce que sinon, évidemment, si chacun fait comme ça, eh ben, il y a plus d'unité de l'État, et il y a nécessairement la guerre de tous contre tous, où chacun a le pouvoir d'édicter la loi.
On voit aussi l'importance de la notion de vertu, là, hein, la vertu qu'on retrouve chez Socrate, qu'on retrouve chez Kant, qu'on retrouve aussi également chez Montesquieu, hein, qui nous dit que finalement, la vertu, c'est bien ça qui tient les républiques. Et donc, je ne sais pas si on peut faire un aparté là-dessus à propos de... Oui, voilà, parce que Montesquieu, à sa manière à lui, donc là, je parle de l'esprit des lois, à sa manière à lui de distinguer les formes de gouvernement au lieu de les distinguer par rapport au nombre de gouvernants, c'est-à-dire il y a le roi, et il y a l'aristocratie et il y a la démocratie, il les gouverne par rapport à d'autres principes et il dit, par exemple, eh ben, il y a la République qui est, dont le ressort c'est la vertu et qui peut avoir soit une forme démocratique quand le peuple a la souveraine puissance, soit une forme aristocratique quand c'est un petit nombre qui détient cette souveraine puissance. Après, il dit qu'il y a la monarchie, et donc la monarchie, elle tient par les lois, comme la République, mais ce qui la meut, contrairement à la République, c'est l'honneur. Et puis, il distingue un cas, ce que les gens en général font, considèrent comme un cas particulier de la monarchie, qui est le despotisme. Ils le considèrent comme quelque chose de tout à fait à part. Et le despotisme, c'est quoi ? Eh ben, c'est justement un régime qui n'a pas de loi. Donc là, on voit encore l'importance des lois.
D'accord. Alors, cette filiation, elle est intéressante parce qu'elle montre une relation finalement assez proche à travers l'idée de vertu entre Platon et Montesquieu. Et donc, on voit que les fondations des sociétés européennes, on voit comme ça, en quoi elle s'appuie sur Platon. Et c'est ce que ne cesse de dire Patočka, hein, par exemple dans ce livre qui s'appelle Platon et l'Europe, hein, que je cite souvent. Et il s'agit, suite au procès de Socrate, puisque c'est un homme injuste qui va être condamné, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et toute la question, c'est comment...
T'as dit un homme injuste ?
Ah non, un homme juste, pardon.
Oui, bah d'accord. Excuse-moi. Qui est injustement condamné.
Un homme juste, injustement condamné. Toute la question, c'est comment faire en sorte que le philosophe ne périsse pas dans une cité.
D'accord. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on reviendra bien sûr sur ces thèmes juste après. Nazim, tu nous dis un mot sur la pause ?
Alors, il s'agit d'un compositeur lorrain qui est Henri Madin et nous allons écouter le début d'une œuvre qui est le Te Deum pour les victoires de Louis XV et je dirai ensuite pourquoi.
Une façon de rendre honneur aux lois en quelque sorte.
Ah bah voilà, oui, et à la monarchie.
RCF, la joie se partage. Donc la pause musicale, Nazim, tu voulais compléter ?
Oui, alors pour les auditeurs qui sont à Nancy, je dis que ce morceau-là sera joué par le groupe La Chorale Nancy Ducale au Temple protestant de Nancy le vendredi 16 juin. Voilà. Donc,
Très bien. Alors donc nous continuons sur le Criton. Et donc, nous en étions arrivés, bien sûr, à cette prosopopée des lois, hein, où il y a un dialogue qui s'engage entre Socrate et les lois. Et donc, par rapport au respect des lois, ce qu'on entend, c'est qu'il faut absolument respecter les lois. Et pour justement compléter un petit peu ce message que nous donne Socrate, un petit peu plus loin, donc je n'avais pas cité tout à l'heure, hein, mais la première citation que j'avais donnée du texte, hein, c'était la partie 50b dans la pagination estienne. Et là, un petit peu plus loin, donc en 51b à peu près, on a encore les lois qui expliquent que finalement, il faut révéler les lois encore plus même que ses parents. Donc je cite. Hein. « Ah, ta sagesse te permet-elle donc de méconnaître qu'il faut honorer sa patrie plus encore qu'une mère ?» Plus qu'un père, plus que tous les ancêtres, qu'elle est plus respectable, plus sacrée, qu'elle tient un plus haut rang au jugement des dieux et des hommes sensés. Oui, il faut la vénérer, lui céder, lui complaire, quand elle se fâche, plus qu'un père. Il faut ou la faire changer d'idée, ou exécuter ce qu'elle ordonne. Souffrir même paisiblement ce qu'elle veut qu'on souffre. Se laisser, s'il le faut, frapper, enchaîner ou mener au combat pour y être blessé ou pour y mourir. Tout cela, il faut le faire, car c'est ce qui est juste. Donc voilà, ça continue un petit peu.
Et plus loin, il s'agit aussi de dire le devoir de faire exécuter ce qu'ordonne l'État à la patrie, ou sinon de la faire changer d'idée par des moyens légitimes.
Voilà, dans la partie un petit peu avant, hein, il le dit. Hein, et effectivement, ce qui est important dans ce passage, c'est cette idée centrale que si les lois ne nous conviennent pas, il ne faut pas les violer, mais il faut essayer de les faire changer.
C'est ça.
Ça, ou quitter la patrie. Important.
Ou éventuellement quitter la patrie.
Mais il y a quelque chose de très très fort hein, dans ce qu'il dit. Parce qu'il dit bien, nous avons le droit de te faire périr, de t'envoyer à la guerre. On comprend bien du reste du coup, effectivement, l'importance de respecter les lois. Parce qu'on ne peut pas comme ça faire envoyer les gens à la guerre contre leur volonté. Donc c'est important aussi d'avoir un esprit de civisme. Mais ce qui a de très fort aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il dit, tu as bénéficié de nous, tu as bénéficié de ce que la cité t'a donné, tu nous appartiens. On a l'impression d'une appartenance. Et je ne suis pas sûre que maintenant, à notre époque, on ait cette même sensation d'appartenance. Ou du moins à ce point-là.
Et donc, il y a cette idée d'appartenance et l'idée d'un devoir et d'une reconnaissance.
Oui.
Voilà. Au fond, on est dans une société où on n'a pas vraiment de reconnaissance à donner. Tu sais, on discutait de ça, Sylvain. Mm-hmm. On est quand même dans une société, en tout cas en France, riche, une société d'abondance. Et pourtant, on a l'impression qu'on doit rien, qu'on nous doit des choses, mais que nous ne devons rien à l'ensemble de la société.
C'est vrai, oui, il y a toujours un peu ce sentiment ambivalent.
Enfin. Et je trouve qu'il y a des très belles, enfin, tout est très beau pratiquement chez Montesquieu, mais j'aimerais bien peut-être vous lire quelques mots de Montesquieu sur la liberté, parce que donc il y a la liberté de Socrate, la liberté d'une personne, c'est pas la liberté du grand nombre. Et donc voilà ce que dit Montesquieu sur la liberté. Il dit « La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, elle ne saurait non plus se confondre avec l'indépendance, elle est le droit de faire tout ce que les lois permettent. » Voilà la citation, elle est le droit de faire tout ce que les lois permettent.
Elle est le droit de faire, c'est ça ce
Alors,
que tu dis
c'est, oui, elle, oui. Est, elle est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Voilà.
Mais encore une fois, je pense que chez Platon, il y a encore quelque chose de plus fort encore, parce que c'est la reconnaissance, en fait. Ouais. C'est tu dois reconnaissance comme tu dois à ton père et à ta mère.
Mais
pas juste une question de droit. C'est
oui,
ça
là, dans la notion, dans chez Montesquieu, il y a une notion d'amour aussi. Hein.
Ah, oui.
Il y a une notion d'amour de la patrie, d'amour de la République.
Alors, il faut aussi ajouter que, pour le coup, justement, ce que tu disais par rapport au fait qu'on quitte la patrie si on n'aime pas les lois, de la cité dans laquelle on est, justement, dans son procès, Socrate avait la possibilité de choisir l'exil, il l'a refusé. Mmh. Et donc, c'est aussi pour ça que maintenant, au moment où il parle avec le Criton, il refuse de partir, puisque justement, il avait la possibilité de le faire avant, il n'a pas voulu le faire, donc...
Alors,
il se soumet à ça, quelque
là,
part,
il est peut-être,
à son propre choix.
Il est peut-être temps que nous examinions notre propre discours et que nous donnions peut-être la parole à Nietzsche. Parce que nous dit Nietzsche dans Le Crépuscule des Idoles ? Je vais relire les phrases qui ont été lues par Daniel Moise dans sa conférence qui s'appelle « Tous pris dans le phénomène du nihilisme » et qui ont été diffusées juste la semaine dernière. Premier temps. Alors, la partie de l'ouvrage s'appelle « Comment le monde vérité devint enfin une fable ». Histoire d'une erreur. Le monde vérité, accessible aux sages, aux religieux, aux vertueux, il vit en lui, il est lui-même ce monde. La forme la plus ancienne de l'idée, relativement intelligente, simple, convaincante. Périphrase de la proposition « Moi, Platon, je suis la vérité ». Deuxième temps. Le monde vérité, inaccessible pour le moment, mais permis aux sages, aux religieux, aux vertueux. Pour le pêcheur qui fait pénitence, progrès de l'idée, elle devient plus fine, plus insidieuse, plus insaisissable. Elle devient femme, elle devient chrétienne. Bon, il y aurait des choses à dire. Troisième temps, le monde vérité, inaccessible, indémontrable, que l'on ne peut pas promettre. Mais même s'il n'est qu'imaginé, une consolation, un impératif. L'ancien soleil au fond, mais obscurci par le brouillard et le doute. L'idée est devenue pâle, nordique. Königsbergienne. Voilà, alors ça c'est le début hein, de ce qu'il dit. Königsbergienne, c'est répondre à Kant, hein, c'est ça. Donc en fait, dans ce mouvement-là, Nietzsche voit une forme de nihilisme, c'est-à-dire une forme de négation de la vie et de l'aspiration à la vie dans ce mouvement de Socrate aussi. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, il n'y croit pas en fait à cette légende de Socrate qui se sacrifie pour la beauté des lois. Enfin,
c'est pas le sacrifice, je pense, qu'il reproche à Socrate. C'est sa sérénité.
Mmh.
Parce que, je pense pas que Nietzsche ignore qu'un homme doit mourir. Et si on doit citer une autre œuvre de Nietzsche, donc je pense à Zarathoustra. Le début de Zarathoustra, donc c'est Zarathoustra passe plusieurs années comme ermite avec ses animaux. Et puis, à un moment, il décide d'aller vers les hommes. Et là, Nietzsche écrit « Ce jour-là, Zarathoustra commença de décliner. » Donc, bon, d'une part, ça fait penser au mythe de la caverne, où le philosophe descend dans la caverne pour aller chercher les autres hommes. Et d'autre part, bah, c'est qu'il se consume. En faisant ça, il se consume lui-même, il donne sa vie, il se sacrifie quelque part, justement, à sa manière. Donc, ce que je reproche Nietzsche à Socrate, c'est de mourir en refusant de se consumer. C'est de mourir à petit feu, quelque part, plutôt que d'être un grand soleil.
C'est vrai, on peut dire que petit feu, il appelle ça un symptôme de la décadence.
Moi, j'avoue que j'ai du mal à vous suivre. Les consommations. À petit feu, j'avoue que c'est un peu obscur pour moi.
Dans le crépuscule des idoles.
Alors, si vous voulez bien, on va peut-être, malheureusement, on est pris par le temps. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse, qu'on remédite à ces aspects-là et qu'on en rediscute, bien sûr, dans la prochaine émission des Neveux de René.
Avec plaisir. Merci, Sylvain.
Merci. Au revoir.